CFM Lacaune, le MAG.
Et le MAG aujourd'hui se déroule à Castanet-le-Haut. La commune est une commune avec beaucoup de forêts. Je suis avec son maire Max Aliès. Donc vous êtes maire de Castanet-le-Haut. Vous êtes aussi président du syndicat forestier privé, des propriétés privées forestières. Je l'ai mis tout ça dans le mauvais ordre, mais on aura compris, de l'Hérault, excusez-moi. Et puis avec Élise Bûcher du Centre national des propriétaires forestiers, avec donc la partie Occitanie pour laquelle vous travaillez. Alors merci de nous recevoir. C'est une deuxième émission qui est consacrée à la forêt, à la gestion forestière. Finalement, on est entouré de forêts, on les voit tous les jours, on voit tous les jours les arbres, mais alors on n'y connaît pas grand-chose si on n'a pas un pied dedans. Là, on aura bien compris avec la première émission. Donc peut-être ce qui serait intéressant, Élise, je me tourne vers vous, c'est que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de nos forêts françaises au sens général. Parce que la forêt, on a toujours eu l'impression qu'il y en avait beaucoup autour de nous. Ce n'était pas forcément le cas quand il y avait plus de monde qui vivait dans les campagnes.
Tout à fait. Ce qu'on parle de couverture forestière, donc la forêt qui nous entoure, en fait, elle est, sur ces dernières années, elle est extrêmement liée à l'activité humaine. Généralement, la forêt restait dans nos campagnes là où l'homme l'avait repoussée. C'est-à-dire qu'on était installé dans les villages, on faisait de l'agriculture sur les secteurs les plus accessibles, donc généralement autour des villages, et la forêt était cantonnée sur les secteurs les plus inaccessibles. Après, bon, vous le savez tous, la forêt était utilisée quand même à cette époque-là. C'est pas parce qu'elle était reléguée qu'elle n'était pas utilisée. Il y avait déjà les utilisations charpentes, chauffage, mobilier, tout ça était. Le bois était évidemment utilisé par
la population.
Mais On l'a tous en tête, il y a eu cet exode rural. Les gens ont petit à petit quitté les campagnes, comme c'était dit à l'époque. Et la nature ayant horreur du vide, en fait, la forêt, enfin, les terrains agricoles sont devenus friches et sont devenus ensuite forêts, puisque les essences forestières qui étaient aux alentours ont fait des graines, et donc la forêt est revenue sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que la couverture boisée a particulièrement oscillé. Et puis, il y a eu toute une politique forestière de l'État. Donc, on a en tête, entre autres, les bateaux de Colbert. Colbert avait dit, attention, il me faut du bois pour mes bateaux, donc on va reboiser. C'est ce qui fait nos forêts du centre de la France actuellement. Et donc, là, il y a eu une politique forestière de l'État dans les années 60-70, et puis un petit peu plus tard aussi dans les années 80, de reboisement, ce qu'on a appelé les reboisements de terrains de montagne, mais qui étaient un petit peu plus vastes. Ça allait même au-delà des reboisements de terrains de montagne, avec le Fonds forestier national, où il y a eu beaucoup de reboisements qui ont été faits, principalement tournés vers les agriculteurs qui voulaient optimiser un petit peu leurs terres qui étaient délaissées. Et donc certains ont reboisé, et puis il y a eu quand même. Pourquoi on parle de reboisement de terrain de montagne? C'est qu'il y avait quand même des montagnes qui étaient un peu pelées, comme on peut dire, par l'élevage, puisqu'il y avait beaucoup de troupeaux. Et donc, sur certains secteurs, quand les troupeaux ont disparu, eh ben, il fallait un petit peu consolider tout ça, notamment avec les pluies qu'on connaît ici, avec les épisodes méditerranéens. Et donc, il fallait consolider tout ça, et la forêt a un rôle énorme de maintien des sols.
Merci Élise de nous avoir un petit peu resitué l'histoire, parce que c'est important aussi pour la connaissance et pour appréhender un petit peu ce qui va suivre. Parce que souvent quand on parle de forêt, ce qui peut inquiéter la personne lambda qui ne s'y connaît pas, c'est les coupes. On le disait, on en a parlé dans la première émission, je vous invite à la réécouter sur cfmradio.fr. On parle des coupes, mais les coupes, on ne les fait pas comme on veut. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à vous. On ne coupe pas le bois comme on veut. Il nous faut des autorisations. Je me tourne vers M. Aliès, peut-être.
J'en parlerai après, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Élise sur l'histoire de la forêt. Elle l'a dit à la première émission, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été un peu dur à admettre. C'est que, par exemple, ici, nous avons une essence qu'on considère comme essence patrimoniale, c'est le châtaignier. Il y a des gens qui ont toujours connu du châtaignier ici, et c'est vrai que bon, je comprends que cette essence à un moment donné a été introduite, peut-être pas dans la molestation, mais des générations et des générations ont vécu au milieu des châtaigniers, qu'ils soient des châtaigniers de fruits, hein, ça, là on était sur de l'agriculture. Pendant longtemps ici, ça a été un atout économique important pour la commune, puisqu'il y avait dans les années 1800, on exportait de la châtaigne jusqu'en Angleterre.
C'était le pain, hein, on peut le dire, c'était la farine.
C'était l'arbre à pain, oui, effectivement, l'arbre à pain. Et puis il y avait une autre activité qui était plus forestière, c'était le taillis. On avait ici des taillis de châtaigniers, on est toujours entouré de taillis de châtaigniers.
Alors excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un taillis de châtaignier?
Le taillis de châtaignier, c'est la différence qu'il y a entre un châtaignier de production, c'est-à-dire un châtaignier qui fait des fruits. Le taillis, c'est des châtaigniers qui poussent et qui étaient coupés. Allez, entre 20 et 25 ans, on les coupait tous les ans, puis ils repoussent. C'est ce qu'on appelle un taillis. Et à 25 ans, on les coupait pour faire des piquets. On appelait ça chez nous en batois le paillissel ici. Bon, c'était des piquets pour la vigne. C'était des piquets pour la vigne. Et ça aussi, c'était une activité qui était très, très, très répandue dans notre secteur ici. Donc, on a, avec le CNPF, on travaille sur ce dossier. Parce que on a constaté qu'on avait des dépérissements, surtout sur les versants sud. Et effectivement, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que le châtaignier, il était déjà avec des problèmes de chancre, de roulure, etc., etc. Mais que le châtaignier aujourd'hui, peut-être, eh bien, il n'est pas à la station qu'il aurait dû être. Mais...
Alors, quand on parle de station, c'est à l'altitude, c'est ça?
Oui,
sur un sol qui n'est pas adapté. D'accord,
son milieu de vie, ce dont l'arbre a besoin.
Et d'accord. Ça, c'est quelque chose de difficile à faire comprendre aux populations qui ont vu depuis plusieurs générations, qui ont été entourées, qui ont vécu au milieu des châtaigniers. Bon. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais préciser, c'est que certains, quand on discute, je dirais, avec certains qui ont des idées un peu intégristes, ils considèrent que le bois, la forêt... il ne faut pas qu'il y ait d'intervention humaine, parce que s'il y a des interventions humaines, c'est pas naturel. Et moi, je considère que la nature, aujourd'hui, elle est façonnée parce que l'homme y a été présent depuis plusieurs générations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des territoires forestiers ou des territoires des milieux ouverts qui sont remarquables, qui sont identifiés au niveau européen pour tout un tas de raisons, parce que justement... L'homme a mis la main à l'entretien de ces espaces, qu'ils soient forestiers ou qu'ils soient naturels. Donc je crois qu'il faut faire attention, et aujourd'hui on a des personnes qui s'imaginent que la forêt elle peut pousser naturellement, sans être accompagnée, etc. Ça, il faut pas rêver. Ce genre de choses, si elle n'est pas guidée, une forêt, si elle n'est pas guidée, c'est pas bon, parce qu'à des moments il faut faire des éclaircies, à des moments il faut faire du renouvellement, etc. Bon.
CFM Lacaune, le MAG.
C'est la seconde partie d'un MAG consacré à la forêt. Nous sommes à Castanet-le-Haut et je suis avec Max Aliès, qui est maire du village et aussi président du syndicat des propriétaires de forêts privées de l'Hérault. Et puis à ses côtés, il y a aussi Élise Bûcher du Centre national des propriétaires forestiers avec la région Occitanie. Élise Bûcher, Max Aliès, on a parlé un petit peu de l'histoire de la forêt dans cette seconde émission. D'ailleurs, je vous réinvite à écouter la première partie de l'émission et une première émission qui avait été faite sur le site de cfmradio.fr. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu à avancer dans le sujet. Et en continuant d'avancer dans ce sujet, l'intéressant, c'est aussi de parler des coupes. Alors, pas seulement des coupes rases, mais aussi des coupes de sélection avec vraiment une réflexion sur les bois que l'on garde, ce qu'on laisse pousser, ce qu'on coupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est le propriétaire qui choisit, s'il y a un travail avec d'autres organismes, monsieur Aliès ?
Propriétaire, ça dépend de la coupe que l'on fait. Si on coupe par exemple dans un taillis, le taillis il repousse, ou un bois de hêtre, on coupe quelques hêtres pour se chauffer, ça repousse, mais par contre il faut une autorisation quand on décide de faire une coupe de récolte, c'est-à-dire qu'on enlève tous les arbres sur la parcelle, et surtout si c'est des arbres qui, comme des conifères, qui ne rejettent pas. C'est-à-dire qu'on
coupe, ça ne repousse pas.
Voilà, ça repousse pas. Si on coupe un taillis de châtaignier, Ben, il va repousser, il va revenir de nouveau à l'état normal.
Dans quelques années.
Ça pousse très vite, ça rejette très vite. Par contre, les coupes doivent être autorisées par les coupes de récolte, on va dire, doivent être autorisées par l'administration. Et donc, il faut un propriétaire, bon, bien sûr, si c'est un arbre par-ci, un arbre-là, il peut le faire. Mais si c'est une coupe importante, il doit demander l'autorisation, il y a une réglementation. La forêt, comme beaucoup de choses, est très réglementée. On ne fait pas ce qu'on veut. Et là aussi, juste préciser quand même que le public voit une coupe qui est de quelques hectares, et de suite, ça le choque, parce que d'abord, ce n'est pas coupé comme à l'époque où on coupait avec à la hache. Aujourd'hui, c'est des machines. C'est plus visible, c'est-à-dire qu'il y a une coupe quelque part, c'est plus visible parce qu'il y a une machine qui est passée, etc. Bon,
voilà. Parce que ça va vite aussi. Enfin, ouais. Peut-être, ça va vite. Le paysage change vite.
Le paysage change vite, donc ça peut effectivement, ça peut chauffer, ça peut choquer. Il faut l'expliquer. Mais une coupe, donc, elle doit être autorisée. Elle doit être faite comme Élise l'a expliqué, dans de bonnes conditions. Hein, elle ne doit pas être faite par une entreprise qui est qualifiée, etc., etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne récolte pas en France la croissance annuelle de la forêt. Voilà. Donc on est vraiment pas en surexploitation, contrairement à ce que l'on peut croire quand on voit ces coupes ici ou là.
D'accord, donc ça c'est important. Et alors, on avait parlé dans la première émission, on n'a pas pu développer le sujet non plus, c'est les coupes sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi des forêts, des arbres malades, et il faut, je suppose, protéger d'autres peut-être parcelles à côté, ou alors, il y a une réflexion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coupe sanitaire ?
Je vais faire un peu comme Max Eliès, juste avant de répondre.
Bon, mais finalement, je m'en vais. J'arrête de poser des questions.
Je voulais juste compléter sur tout ce qui était coupe, parce que finalement, on parle de la coupe parce que c'est le résultat et qui est particulièrement visible. Le propriétaire va organiser en fait toute sa gestion, y compris les coupes, tout au long de la vie de sa forêt. Et ça se fait dans le cadre de documents qui s'appellent des documents de gestion, qu'on appelle des documents de gestion durable, où il va faire un bilan de sa forêt pour bien la connaître, planifier dans le temps. Donc nous, pour les propriétaires forestiers privés, c'est des plans simples de gestion qui peuvent être réalisés entre 10 et 20 ans. Donc il va planifier dans le temps, jusqu'à 20 ans, l'ensemble de ses coupes et travaux. C'est les rendez-vous qui se donnent dans sa forêt pour pouvoir les réaliser. Donc, tout ça, c'est agréé par notre établissement, le Centre National de la Propriété Forestière. Mais après, le contrôle de ce qui a été mis dedans est réalisé, comme le disait Max Eliès, par les services de l'État. Ça veut dire que le propriétaire, il a eu un cadre d'une bonne gestion qu'on a qualifiée de gestion durable. Si par contre il y déroge, eh ben, effectivement, c'est les services de l'État qui vont intervenir. Et pour venir aux coupes sanitaires, que je n'oublie pas, évidemment, tout ça, on prévoit en se disant « tout va bien se passer ». Sauf qu'on n'est pas à l'abri d'une tempête, d'un coup de chaleur, d'insectes, voilà, d'éléments qui vont venir perturber la vie de la forêt et qui peuvent donc rendre la forêt dans un état d'instabilité où il va falloir intervenir. Donc ça, on n'avait pas pu le planifier à l'avance, donc ça s'appelle, comme vous le disiez très justement, des coupes d'urgence, où il va y avoir une autorisation particulière qui va être demandée par les propriétaires au service de l'État, de manière à pouvoir, dans l'urgence, réaliser une coupe avant que les arbres soient complètement secs. Et en fait, pourquoi on fait cette coupe ? On pourrait se dire, on les laisse, ils vont mourir. Oui. Voilà. Sauf que généralement, ces coupes d'urgence sont demandées sur des peuplements où il y a une valeur en fait intrinsèque, et avant qu'ils soient complètement dépérissants, si on les coupe, ils vont pouvoir servir à faire des planches, à faire de la charpente, si on purge les morceaux qui sont abîmés. Et donc, en fait, ils ont une valeur bois pour la filière aval et qui peuvent avoir une utilisation. C'est pour ça que les propriétaires forestiers, du coup, demandent ces coupes de manière à ce que le bois puisse avoir une deuxième vie et stocker, entre autres, du carbone.
Alors malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce que c'est passé très vite. On pourra peut-être se re-rencontrer pour parler, pourquoi pas, des débouchés. Hein, parce que par exemple, on n'a pas du tout parlé du débouché de la forêt, non plus de la façon de couper, de la gestion à proprement dite, donc de la forêt. Ça sera une occasion de se re-rencontrer, si vous le voulez bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir donné quelques éléments de compréhension sur ce domaine qu'on ne connaît pas forcément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un plaisir.
Merci à vous.